L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'oreille mathématique. Nous recevons aujourd'hui une mathématicienne qui aime, dans l'ordre et dans le désordre, la théorie des nombres, la musique, la littérature et peut-être plus spécifiquement encore les romans policiers, nous y reviendrons, l'œuvre et les idées d'Alexandre Grothendieck. Elle s'intéresse aussi à la place des mathématiques dans le domaine de la justice et est l'auteur, avec sa fille Coralie Colmès, d'un livre intitulé « Les maths au tribunal », sous-titré « Quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires ». Bonjour Leïla Schneps.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Leïla Schneps, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'équipe analyse algébrique à l'Institut de mathématiques de Jussieu. Vous avez effectué la plus grande partie de votre parcours de mathématicienne en France, mais vous êtes née et avez grandi dans le Massachusetts, aux États-Unis. On a commencé à le faire entendre en introduction de cette émission. Votre parcours de mathématicienne, il est prestigieux et il y transparaît d'emblée une très grande curiosité, une forme d'originalité même, de par son ouverture, tout en restant très ancrée dans le raisonnement et le langage mathématiques. On connaît la citation de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Est-ce que vous êtes née mathématicienne, Leïla Schneps ?
Ça, c'est vraiment une question profonde. Je n'ai pas de réponse immédiate. Je ne m'intéressais pas du tout spécialement aux maths quand j'étais enfant. Enfin, pas consciemment. Je n'aimais pas ça à l'école du tout. Je n'ai jamais pensé être mathématicienne. Et pourtant, c'est vrai que j'ai des souvenirs d'avoir fait des tas de calculs dans ma tête et beaucoup de raisonnements intéressants, toute seule, en marchant, en comptant, en regardant les nombres. Donc, c'est difficile à dire. Je crois que née mathématicienne, non. Je connais des gens qui sont nés mathématiciens et je ne suis pas comme ça. J'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt, je fais beaucoup de choses. J'aurais pu faire d'autres métiers. Mais l'amour des maths, oui, je crois que je suis née avec, effectivement.
Comment ils sont pour vous les gens qui naissent mathématiciens? Qu'est-ce qui les différencie de vous, justement?
J'ai l'impression, j'en connais plusieurs, il y a un chemin unique. Ils n'auraient pas pu faire autre chose, ils n'auraient pas voulu faire autre chose.
Qu'est-ce que faisaient vos parents, Leïla Schneps?
Alors, mon père était physicien, professeur de physique et chercheur à l'université de Tufts, dans le Massachusetts. Et ma mère était traductrice en trois langues. Elle était italienne, elle parlait très bien le français et l'anglais. Donc, elle travaillait comme traductrice et interprète.
Et vous m'avez raconté, quand on a commencé à discuter ensemble pour préparer cette émission, que votre père enfant, il vous donnait sans arrêt des petits problèmes à résoudre à vous et vos sœurs, et que vous, c'était à l'époque pas du tout votre truc.
Oui, enfin, que je sois claire, c'était pas des problèmes de maths du tout. Mon père était vraiment physicien. Et lui, il nous posait effectivement des petits problèmes, mais pas des calculs, pas du tout. C'était beaucoup plus des choses où il fallait visualiser des objets physiques dans l'espace, par exemple, des petites boules qui roulaient dans un entonnoir ou alors des véhicules qui tournent très vite autour d'un coin, des objets comme ça, et puis de l'eau qui coule dans des tuyaux. Il nous montrait des petits dessins, des fois, il nous posait des questions, alors qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, j'étais vraiment très, très mauvaise. Je répondais toujours de travers, j'avais jamais la bonne réponse, je ne visualise pas très bien. Et je pense que mon père a cru que je n'avais strictement aucun don pour les sciences.
Justement, comment est-ce que ça s'est révélé, ce don pour les sciences, et puis petit à petit, ce goût pour les mathématiques, et après le parcours qui a été le vôtre? Comment ça s'est construit?
Oui, alors ça s'est construit en deux étapes. La première étape était vraiment, je peux appeler ça une étape inconsciente, c'est-à-dire que j'étais intéressée par les cours de maths à l'école, mais je croyais que je ne l'étais pas. Alors, comment est-ce que je peux savoir maintenant que, en fait, j'étais intéressée? C'est parce que je me souviens d'absolument tout, y compris certains moments d'émerveillement. Mais je ne me le disais pas consciemment. Consciemment, je me disais, moi, je n'aime pas les maths. Et je vais même arrêter les maths dès que je peux. C'est très intéressant, ça, d'ailleurs, parce que ça, c'est forcément moi qui répercutais un message reçu de l'extérieur, sans le savoir. Et J'ai découvert quasiment par hasard que j'étais bonne en maths en passant de petits concours à l'intérieur de mon lycée et simplement en suivant les cours. Je mettais aucun cœur là-dedans. Je faisais ça sans réfléchir du tout et des fois, je gagnais. Donc, je me suis dit, c'est marrant. Je croyais que j'étais mauvaise, mais finalement, je suis peut-être pas si mauvaise. Et donc, quand je suis allée à l'université, je me suis quand même dit, je vais prendre un cours de maths, je vais pas arrêter, je vais voir maths et physique, je vais pas arrêter les sciences. Je voulais étudier littérature et musique, mais j'ai suivi des cours de maths et physique la première année pour voir. Et c'est là où tout a changé, parce que les professeurs étaient extraordinaires, parce que les maths à l'université, c'est quand même pas du tout la même chose que les maths au lycée. Et j'ai vraiment commencé à découvrir ce que c'est. J'avais des professeurs extraordinaires et j'ai décidé que c'est vraiment ça que je voulais faire.
Vous avez eu un professeur en particulier qui vous a beaucoup marqué. On peut peut-être dire son nom parce que je crois qu'il est devenu très célèbre par la suite.
Il est devenu très célèbre. Alors voilà, c'était le premier jour des cours. J'étais à l'université de Harvard. Je m'étais inscrite dans le cours de calcul intégral. Et il y avait deux cours en même temps parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. Donc, j'ai choisi un professeur qui avait un nom intéressant. Et je suis allée dans son cours. Sauf que je n'ai pas pu entrer parce que j'avais quelques minutes de retard. La porte était fermée et je n'arrivais pas à l'ouvrir. Je me suis dit, je vais dans le cours de l'autre qui a un nom beaucoup plus ordinaire. Et donc, je suis allée dans le cours de l'autre. J'ai découvert donc un jeune monsieur anglais avec un accent délicieux, avec des boucles blondes, charmant. Et qui était par ailleurs un professeur absolument excellent. Je me suis vraiment attachée à son cours et j'ai fourni d'énormes efforts pour rattraper le retard que j'avais en fait du fait d'avoir jamais fait beaucoup de maths ou m'intéresser à ça auparavant. Et en fait, c'était nul autre que le fameux Andrew Wiles qui par la suite a démontré le théorème de Fermat. Mais à l'époque, c'était un jeune mathématicien doué de 26 ans et moi j'en avais 17. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est vu pour la première fois.
Est-ce que vous considérez, Leila Schneps, qu'il a eu comme ça un rôle de révélateur pour vous? Enfin, il y a eu un tournant avec la rencontre de ce professeur dans votre carrière de mathématicienne?
Complètement. Et je ne dis pas du mal de mes professeurs de collège et de lycée parce qu'ils faisaient leur boulot, mais lui, c'était complètement un autre niveau. Il avait de l'imagination, il avait du charme. Non, il avait du charme. Ce que je veux dire, c'est qu'il montrait le charme des maths. Et vraiment, quand il expliquait les concepts, il les rendait un peu magiques. Non, c'était un professeur très doué. En moi, j'ai trouvé en tous les cas. Ça m'a ouvert des portes et c'est lui, complètement lui, qui m'a donné envie de faire des maths ma spécialisation.
Vous dites qu'à l'intérieur des mathématiques, vous avez, je cite, « une nature très algébrique ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, il y a beaucoup de types de maths. Ça, c'est quelque chose que dès qu'on commence à s'intéresser aux maths, plus on avance, et peut-être plus dans les premières années d'université qu'au lycée, on se rend compte qu'il y a des domaines en maths qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et il y a des domaines qui étudient fondamentalement ce que je pourrais appeler la continuité, c'est-à-dire ça peut être l'espace, les surfaces, les formes, les mouvements continus comme l'eau qui coule, des systèmes dynamiques qui décrivent par exemple le mouvement des planètes. Tout ça, c'est vraiment des études d'objets continus. Et on appelle ça grosso modo des sujets analytiques. Et par ailleurs, il y a des sujets numériques, des sujets algébriques. Par opposition au mot continu, je pourrais dire le mot discret, c'est-à-dire c'est des objets séparés, comme des petits cailloux, comme les nombres. L'étude de systèmes discrets, c'est très, très différent comme nature. Il faut comprendre l'agencement des choses, comment les relations que les choses ont les unes avec les autres. On ne procède pas autant par comparaison de quantités. Telle quantité est supérieure ou égale à telle autre, ou domine ou est plus grand. On procède beaucoup plus par égalité. Ce qui me fascine absolument, c'est quand on a une équation en maths, A égale B. En algèbre, surtout, on cherche souvent à démontrer des égalités A égale B. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est qu'au départ, A et B étaient totalement différents. Provenaient des fois de mondes différents, de domaines différents, de calculs totalement différents. Et on peut s'apercevoir qu'ils se ressemblent, on peut commencer à les comparer. Et à la fin, on peut démontrer un théorème que A égale B, mais ça n'avait rien d'évident au départ. Alors moi, il faut dire qu'une chose que j'aime beaucoup, c'est l'expérimentation mathématique. J'utilise beaucoup l'ordinateur pour faire des maths. J'étudie des objets. Bon, les nombres entiers, c'est un seul exemple. Après, il y a des objets, des structures beaucoup plus compliquées. Mais ça commence petit et ça devient de plus en plus grand. C'est infini comme objet, ce n'est pas des objets finis. Mais on peut regarder le début explicitement. Et je programme mon ordinateur pour me faire beaucoup d'expériences. Et là, des résultats, j'examine les résultats et je remarque des choses que j'aurais jamais pu voir à l'œil nu. Par exemple, la possibilité qu'effectivement, telle chose est égale à telle autre chose, alors que, a priori, on ne voit pas du tout pourquoi ça serait. Bon, moi, j'aime beaucoup découvrir des symétries, des égalités, des surprises en faisant de l'expérimentation à l'ordinateur. Mais après, il s'agit de poser son ordinateur et de démontrer la chose avec un crayon et du papier, quoi.
Qu'est-ce qui vous a amené à venir poursuivre vos études en France? Parce que finalement, assez vite, vous avez quitté l'université américaine pour rejoindre les universités françaises, c'est bien ça?
Oui, j'ai fait mon BA, comme on dit, c'est la licence aux États-Unis, sauf que c'est une licence de 4 ans. Et après, je suis venue en France pour faire ma thèse. Alors, il faut savoir que je suis très impulsive. J'ai toujours tout fait dans ma vie sur des impulsions assez soudaines. Et quand j'étais à Harvard, dans ma troisième année, j'ai conçu l'idée d'aller passer un semestre à l'étranger, qui était assez rare à l'époque, et surtout personne n'y allait d'une université de Harvard qui, je ne cacherai pas, a une excellente opinion d'elle-même et ne comprend pas qu'un étudiant puisse aller vouloir aller voir ailleurs. Mais j'ai beaucoup insisté. Et j'ai eu donc finalement le droit d'aller passer un semestre à Göttingen en Allemagne, où il y a un département de maths très, très réputé. Et là, il y a eu une série d'exposés, je suis allée les écouter, et il y a eu un exposé en particulier, fait par une jeune femme française, hein, qui avait quelques années de plus que moi, qui était en thèse à Paris. Et franchement, ce qu'elle faisait, ce qu'elle racontait, ça me plaisait énormément. Et la jeune femme me plaisait, je voulais être comme elle, je voulais vraiment être comme cette jeune femme et vivre cette vie parisienne qui paraissait enchanteresse. Alors, je lui ai parlé après son exposé. J'ai demandé qui était son directeur de thèse. Et je suis allée à Paris le rencontrer. Et il m'a dit beaucoup de choses que je ne savais pas du tout venant des États-Unis où l'université est extrêmement structurée. Il faut des candidatures pour faire une thèse et c'est difficile avec tout un dossier de candidature et on est accepté. Après, il y a des bourses, des choses. Alors, maintenant, aujourd'hui, il y a des bourses en thèse, mais à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Si on pouvait apporter ses propres finances, on pouvait faire une thèse. Il suffisait de trouver un directeur de thèse qui dise oui. Alors, il m'a dit, écoutez, c'est pas forcément une bonne idée parce que les étudiants en thèse américains sont très, très encadrés. Ils vivent sur un campus, il y a toujours des gens autour, ils sont jamais seuls. Paris, c'est comme un énorme séminaire de maths, mais sans aucune structure, il y a personne qui va vraiment s'occuper de vous. Il y a moi, on se verra une fois par semaine, après vous êtes vraiment un peu lâché dans la nature. Moi, j'ai pas hésité, j'ai dit, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça. Bon, j'étais très naïve, je savais rien de rien. Et il m'a dit, ok, venez. Alors, c'était très amusant, parce que ça, c'était au milieu de ma dernière année à Harvard, quand je suis rentrée... Pour finir mon année, tous les autres étaient en train de nager dans leur candidature et moi, je suis acceptée à Berkeley, moi à Princeton et toi, tu vas où? Moi, je vais à Paris. Bon, ça a suscité une certaine jalousie de la part de tout le monde, mais j'étais vraiment très, très contente de ce projet. Et alors, voilà, j'ai fini mon année à Harvard. J'ai travaillé tout l'été pour rassembler assez d'argent pour vivre. Et je suis arrivée à Paris au mois de septembre pour commencer une vie toute neuve, sans aucun plan ni projet, sauf de faire une thèse. Mais je ne savais pas du tout où je passerais le reste de ma vie.
Leila Schnaps, vous m'avez dit aussi que pour vous, l'algèbre, c'est une science de l'égalité. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce que vous voulez dire comme ça par ce terme d'égalité.
J'ai dit le mot égalité, mais on dit beaucoup plus en algèbre le mot isomorphe, qui veut dire, en grec, qui ont la même forme. Et c'est pas une question d'être plus grand ou plus petit ou plus vite ou plus ou moins. C'est vraiment une question d'avoir la même structure ou une structure très similaire qu'on peut décrire avec exactitude.
Alors moi, ce mot d'égalité, il me fait, de manière naturelle, dans le langage naturel, il me fait associer avec l'idée de justice. Je voudrais qu'on en parle justement parce que vous avez abordé cette thématique-là dans un livre dont on a parlé en introduction, un livre coécrit avec votre fille, Coralie Colmez, qui est apparu aux États-Unis en 2013, en France en 2015, et puis il a été récompensé en 2016 avec une mention spéciale au prix Tangente des lycéens. Ce livre, il s'intitule « Les maths au tribunal, quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires ». J'aimerais qu'on en parle avec Adrien Rossil, qui s'est justement intéressé à ce sujet pour la chronique Médiation scientifique du podcast. Bonjour Adrien.
Bonjour Hélène. Leïla Schneps, vous avez détaillé dans un article nommé « Statistiques, probabilité et justice » disponible sur le site internet de votre laboratoire, l'Institut de mathématiques de Jussieu, une liste d'usages et surtout de mauvais usages d'outils statistiques et probabilistes dans le domaine de la justice, en détaillant plusieurs exemples à la fois historiques et fictifs. Je souhaiterais aujourd'hui revenir avec vous sur l'un de ces exemples qui est basé sur le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes, c'est un théorème de probabilité qui permet de relier entre elles des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire les probabilités qu'un événement se produise selon la probabilité qu'un autre événement se soit produit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la formule pendant cette chronique, et plutôt expliciter un exemple, celui que vous détaillez d'ailleurs dans votre article. Pour cela, mettons-nous en situation et prenons la place d'un ou d'une juge lors d'un procès. L'affaire jugée aujourd'hui est plutôt sordide, il s'agit de décès en série de patients dans le même service d'un hôpital. L'accusé est une infirmière de ce service, et l'accusation dispose d'un argument qui nous semble à première vue très solide. Une mathématicienne ayant travaillé pour l'accusation a étudié les plannings de travail de tous les infirmiers et de tous les infirmières du service, et les a mis en relation avec les jours et heures où ont été à chaque fois commis les crimes dans cet hôpital. L'infirmière accusée était à chaque fois présente dans le service lors de chaque crime, et la mathématicienne a même pu établir, à l'aide d'outils statistiques, la probabilité que la présence de cette infirmière au mauvais moment, au mauvais endroit, soit à chaque fois due au hasard. Les calculs sont compliqués, mais ils sont très objectifs et ils fournissent un résultat sans appel. La probabilité que l'infirmière accusée ait été présente à l'hôpital lors de tous les actes criminels, uniquement à cause de coïncidences hasardeuses, n'est que d'une chance sur 10 000. L'argument semble irréfutable, et l'audience tout entière semble avoir compris qu'il n'y avait qu'une chance sur 10 000 que l'infirmière soit innocente. Heureusement, l'avocate de la défense se rappelle très bien de ses cours de probabilité conditionnelle et pousse le raisonnement un peu plus loin. Elle ne réfute pas le calcul de l'accusation et valide le fait que la coïncidence hasardeuse entre la présence de l'infirmière et l'irruption des crimes soit très peu probable, une chance sur 10 000. Toutefois, elle ajoute une seconde donnée statistique au raisonnement. La probabilité que si on prend une infirmière au hasard parmi l'ensemble des infirmiers et des infirmières, celui-ci ou celle-ci soit criminel. À l'aide de statistiques, disons sociologiques, elle estime que seulement une infirmière sur 1 million est une criminelle, et tout le monde dans le tribunal pourrait acquiescer cette donnée. L'avocate ajoute une autre donnée, elle complètement irréfutable, qui consiste tout simplement à dire que si l'accusée était coupable, alors elle aurait bien été présente sur les lieux du crime lors de chaque crime. Ces deux nouvelles données ne semblent pas vraiment rendre service à l'accusée qui commence à douter des talents de son avocate. En tant que juge, nous serions tous bien tentés de lever notre marteau et d'annoncer le verdict. Pourtant, lorsque l'avocate calcule avec ces trois données et en utilisant justement la formule du théorème de Bayes, la probabilité que l'accusée soit innocente sachant qu'elle était présente sur les lieux du crime lors de chaque crime, elle trouve un résultat sans appel, la probabilité que l'accusée soit innocente est de 91%. N'importe quel juge ferait tomber son marteau et, espérons-le, irait aussitôt s'inscrire en cours de statistiques et probabilités. Derrière cette mise en scène et cet exemple fictif, on trouve une réalité statistique assez étonnante. La raison en est la comparaison entre les probabilités que l'on considère. Certes, une probabilité d'une chance sur 10 000 d'avoir été présente sur les lieux du crime par hasard semble assez accablante, mais à côté de cela, il faut prendre en compte le fait que seulement une infirmière sur 1 million serait a priori une criminelle. En d'autres termes, avoir une chance sur 10 000 d'être présente sur les lieux du crime ne signifie pas avoir une chance sur 10 000 d'être innocente. Car il faut appliquer la probabilité non seulement sur une infirmière, mais sur l'ensemble des infirmières, dont seulement une infime proportion serait potentiellement coupable. Certes, c'est un exemple fictif avec seulement trois données qui est très réducteur de la réalité judiciaire qui comporte beaucoup plus d'indicateurs, à la fois objectifs et subjectifs, qui sont à prendre en compte pour les décisions. Trois données statistiques ne suffisent pas pour modéliser un procès. Mais ce petit exemple, inspiré de situations réelles, montre bien les risques d'un mauvais usage des outils statistiques pour la prise de décision. Et la Schneps, il existe néanmoins des situations dans lesquelles les outils statistiques fournissent une aide précieuse aux décisions judiciaires. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur quels sont ces outils statistiques et dans quelles situations ils peuvent s'appliquer ?
Il ne faut jamais dire une probabilité ou un pourcentage sans dire la population. Ça, c'est un message que je martèle quand je parle à des jeunes. Quelque chose arrive qu'une fois sur 100 ou une fois sur 1000, hein, c'est très rare. Eh ben non, si la population est 1 million, c'est pas très rare. Ça va arriver plusieurs fois. Vous pouvez pas vous imaginer combien je tombe sur ce problème dans le vrai monde. Que c'est trop rare, c'est trop rare, c'est très peu probable. Il y a un médecin américain qui a décidé d'étudier la question très simple, de savoir si une petite chute de moins d'un mètre et demi peut éventuellement causer le décès d'un bébé. Alors, il a suivi tous les enfants dans un hôpital en Californie énorme qui desservait une très grande population, tous les enfants qui étaient là pour chute, pour cause de chute. Et il les a divisés en grande chute et petite chute. Et il n'y avait pas énormément d'enfants. Sur 5 ans, il y avait à peu près 100 enfants dans chaque groupe. À peu près, j'arrondis les chiffres. Il a trouvé un décès dans les 100 enfants qui avaient fait de grandes chutes de 3 mètres et plus. Et 7 enfants qui étaient décédés des petites chutes. Alors, la conclusion de son article, c'est que c'est 7 fois plus probable de mourir d'une petite chute d'une grande chute. C'est évidemment une contradiction. C'est pas possible. Donc, en fait, ces histoires de petites chutes, c'est des mensonges. Il faut pas les croire. Il faut supposer qu'il s'agit de cas de maltraitance. Et moi, ce que je dis, il y a beaucoup, beaucoup de défauts avec ce raisonnement, mais je vais dire le plus important, celui qui est vraiment le plus frappant, c'est que si un enfant fait une chute de 3 mètres et plus, il va être emmené à l'hôpital, même s'il n'a pas l'air d'avoir mal. Mais s'il fait une petite chute d'un mètre, il ne va jamais être emmené à l'hôpital, sauf si c'est très, très grave, sauf en cas très rare. Son hôpital desservait une population d'un million d'enfants. Il devait y avoir des millions de petites chutes. Il ne peut pas dire que la fréquence de décès des petites chutes est 7 sur 100. Il faut essayer d'estimer combien il y a de petites chutes dans une population d'un million d'enfants par an et dire c'est 7 sur 100, peu importe que l'enfant soit amené à l'hôpital ou pas. Alors dire, et il dit en toutes lettres, ce serait 7, si on croyait ce que disaient les gens, ce serait 7 fois plus dangereux de faire une petite chute d'une grande chute. C'est complètement absurde, c'est l'opposé de la vérité. On peut d'ailleurs tout à fait faire le calcul et on voit que c'est 20 000 fois plus probable de décéder d'une grande chute que d'une petite chute, si on regarde simplement les statistiques de la population. Et ce genre d'erreur se trouve absolument partout dans les études médicales. Je le trouve tout le temps. C'est des erreurs immenses, des erreurs grossières et des erreurs qui sont constamment citées dans les procès. Et pas seulement dans les procès, mais même dans les formations, dans les cours.
Pour conclure, Leila Schneps, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de mathématiciens dans les tribunaux pour apporter un éclairage, et parfois un éclairage très très nécessaire, hein, sur certaines données et sur la manière dont elles sont maniées? Ou est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait que dans d'autres disciplines que les mathématiques, les juristes, les médecins, aient une éducation en mathématiques plus poussée, qui leur permettent de raisonner avec plus de fiabilité?
Alors, moi, j'aimerais vraiment la deuxième solution, si c'était envisageable. Ce serait vraiment génial si le public, de manière générale, avait beaucoup plus d'éducation mathématique au niveau du raisonnement, de l'estimation et des simples probabilités. C'est très rare, c'est peut-être jamais le cas, que les erreurs statistiques que je décèle sont des mathématiques très élevées, très difficiles niveau recherche. Il s'agit d'erreurs pas compliquées. La plupart du temps, quand je les explique au public général, les gens comprennent parfaitement. Il n'y a aucune raison, à mon avis, que tout le monde ne soit pas entraîné à raisonner correctement.
À manier ce vocabulaire que sont les mathématiques, ce langage, cette langue.
C'est exactement ça. En fait, on pourrait penser aux mathématiques, et je parle vraiment maintenant même de mathématiques tout à fait élémentaires, absolument le genre qu'on peut apprendre au lycée, on ne l'apprend pas forcément, mais qu'on pourrait, comme une extension du langage normal qu'on utilise pour évaluer, pour décrire, pour appréhender le monde autour de nous. On décrit une situation avec des mots, des adjectifs. Et qu'est-ce que ça peut faire de décrire, d'ajouter un élément de statistique à la description? Ça enrichit la description, ça enrichit la compréhension de l'objet. Ça a l'air répugnant ce que je dis. Je sens que les gens vont dire « Ah, c'est ça, maintenant il va falloir utiliser les statistiques pour décrire les choses. »
Mais au contraire, moi j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts de nous dire que ça embellit même
l'image. Mais ça embellit à mes yeux complètement et ça ajoute toute sa poésie, toute sa beauté. Ça éclaircit, ça ouvre des portes, ça jette une lumière et on voit vraiment les choses autrement.
Leïla Schneps, vous m'avez dit que finalement, ces études en criminologie, vous les avez menées finalement assez tard hein, dans votre carrière parce que la plus grande partie de votre parcours en mathématiques, il est très lié à l'œuvre et aux idées d'Alexandre Grothendieck, qui est quand même une rencontre très marquante dans votre vie de mathématicienne. Est-ce que déjà vous voulez nous dire qui était Alexandre Grothendieck, hein, qui est mort en 2014, et comment vous avez rencontré son œuvre?
Oui, alors... moi, quand j'étais jeune étudiante, comme tous les étudiants en maths, je connaissais le nom d'Alexandre Grothendieck comme auteur d'une grande série de livres sur la géométrie algébrique. C'est un sujet extraordinaire, la géométrie algébrique, parce que la géométrie, a priori, on peut penser à ça, comme je disais tout à l'heure, comme un sujet continu, une étude de forme. Et lui, il a algébrisé, juste quelque chose selon mon cœur. Il a montré vraiment comment utiliser l'algèbre pour donner des structures enrichies aux objets géométriques. Mais les livres ont la réputation d'être extrêmement difficiles, extrêmement secs, et durs à lire, et très abstraits, très théoriques, sans le moindre exemple. Les livres ont vraiment eu la réputation d'être difficiles et extrêmement abstraits. Donc, je ne les avais en fait jamais explorés. C'était pas du tout mon domaine, en fait. Et c'est tout ce que je connaissais d'Alexandre Grothendieck jusqu'au jour où on m'a donné à lire, alors ça c'était en 1991, je pense, un manuscrit de lui qui circulait de main en main, qui n'était pas du tout publié, qui datait de 88, donc il y avait déjà 2 ou 3 ans, et qui était son dossier de candidature au CNRS, où il espérait finir sa carrière pour cesser l'enseignement dans les dernières années. Il était venu en France, il est né en Allemagne en 1928, il était venu en France à l'âge de 11 ans, en 1939, parce que c'était un peu compliqué en Allemagne, il avait un père juif, et il vivait dans une famille d'accueil qui a commencé à s'inquiéter pour lui, donc il l'a envoyé rejoindre ses parents qui étaient à Paris. Donc, il est arrivé et il a fait toutes ses études en France. Il a vécu dans un camp, le camp de Rieucros, hein, pour réfugiés allemands pendant la guerre. Après, il a été au Chambon-sur-Lignon. Après, il a fait l'université de Montpellier. Après, il est allé faire sa thèse à Nancy. Et il est devenu très, très jeune, déjà à 22, 23 ans, un mathématicien de génie extraordinaire. Peut-être le genre dont on n'en voit que 1 ou 2 dans un siècle. Et il avait fait donc pendant des décennies, pas très longtemps d'ailleurs, entre disons 21 et 42 ans, il a fait une montagne de maths, ces maths dont je parlais tout à l'heure. Et après, il a quitté brutalement l'institut où il avait un travail très confortable et il a un peu disparu dans la nature. Il est retourné à Montpellier où il était prof à la fac, mais il mettait très peu les pieds à la fac et il vivait une vie... très retiré et il s'occupait surtout de questions d'écologie. Alors, je ne savais rien du tout de tout ça. Le jour où on m'a donné ce manuscrit à lire, j'ai pensé simplement, dis donc, du Grothendieck, je sais que c'est très très dur, je ne sais pas si je vais aimer ça. J'ai dit très poliment, merci pour ce manuscrit intéressant, voilà. Et je l'ai embarqué et j'ai commencé à lire et j'ai trouvé exactement le genre de choses que j'adore. C'était poétique, inspiré, visionnaire, extraordinaire. Ce n'était pas un papier mathématique du tout avec des théorèmes et des résultats. C'était un projet de recherche, c'est normal, parce que c'était son projet de recherche pour candidater au CNRS, qui d'ailleurs, je précise, lui a donné ses 4 ans pour finir sa carrière au CNRS. Et c'était un projet de recherche extrêmement osé, visionnaire, avec des tas d'idées juste du genre qui me plaît, par exemple. Et si on étudiait cet objet purement arithmétique par le biais de la géométrie? Ou si on regardait complètement autrement que ce qu'on a fait jusque-là? Et il se trouve qu'avec les recherches que j'avais faites jusque-là en théorie des nombres et théorie des groupes, J'étais bien placée pour lire ce manuscrit et commencer à travailler là-dessus. Et j'étais vraiment bouleversée. Hein. C'était le coup de foudre absolu. J'ai arrêté mes recherches et je me suis lancée dans les recherches sur le projet de recherche de ce manuscrit.
Et vous m'avez dit, Leïla Schnapps, que finalement, tout au long de votre carrière, vous avez quelque part travaillé comme ça, dans une espèce de constellation dont le centre restait l'œuvre d'Alexandre Grothendieck, en fait.
Tout à fait. Et pas seulement l'œuvre, mais parce que son œuvre est immense avec beaucoup de volets, les idées continuent dans ce manuscrit-là. Mm-hmm. En fait, ce que j'ai découvert au début, c'est qu'on pouvait travailler, effectivement, faire de la recherche et progresser dans la direction qu'il avait indiquée. Ensuite, j'ai découvert que quelques personnes dans le monde, pas du tout en France, mais quelques Russes, quelques Japonais, avaient fait des travaux pertinents et reliés. Et donc, on pouvait faire les connexions et ça faisait avancer ces idées. Et ensuite, petit à petit, les années avancées, d'autres gens m'ont appris pas mal d'autres approches, d'autres aspects, d'autres versions, d'autres façons de travailler la même chose, mais différents. Et j'ai commencé à découvrir des tas de connexions avec d'autres domaines, même avec la physique, avec beaucoup de gens qui faisaient tout seuls dans leur coin des choses dans d'autres domaines. Donc, c'est un nexus, les idées gothétiques, c'est une espèce de cœur d'octopus avec beaucoup de tentacules qui s'étendent dans les différents sens et qui touchent de différents domaines. Et le fait d'avoir vraiment travaillé au début au centre, ça me permet de voir plein de connexions. C'est fascinant. Et ouais, effectivement, je peux dire que ça fait 30 ans maintenant que je travaille ces idées. J'ai pas mal voyagé dans les différents domaines, mais c'est toujours le même cœur.
Et au final, est-ce que vous avez pu le rencontrer? Lui qui était quand même un personnage extrêmement secret, très énigmatique, et comme vous l'avez dit, qui a quand même passé la fin de sa vie très, très retiré, hein, en fait. Hein.
Oui, en fait, j'ai lu ce manuscrit en 91 et j'ai lu d'autres manuscrits qu'il avait écrits. J'ai lu le livre Récolte et semaille, qui était simplement un manuscrit donné à quelques amis, mais qui va maintenant paraître chez Gallimard, 40 ans plus tard. Et j'ai conçu le désir de rencontrer cet homme que je trouvais extraordinaire, le mathématicien bouleversant. C'est un peu celui que j'avais cherché toute ma vie, hein, celui qui faisait des maths avec magie, avec du cœur, avec de la passion, qui voyait, qui parlait de la poésie, qui voyait ça d'un œil qui m'enchantait. Donc j'ai voulu absolument aller le trouver et c'est là où j'ai découvert que l'année où j'ai lu son manuscrit, la même année, 91, lui avait disparu. Tout le monde savait où il habitait jusque-là. Il habitait dans un village près de Montpellier, mais il a complètement disparu, abandonné sa maison. Alors, je me suis dit, je vais le chercher. C'est pas évident de chercher quelqu'un qui est disparu. J'ai eu un coup de chance. J'ai rencontré quelqu'un. Je connaissais quelqu'un dont les parents avaient une petite maison dans son ancien village qui avait été au marché. Et quelqu'un dans le marché leur a dit, ah, moi j'ai une cousine qui travaille dans le marché de Saint-Giron. Elle dit que le mathématicien fou qui vivait ici avant est là-bas maintenant. Alors, je suis allée au marché de Saint-Giron. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre Grothendieck pour la première fois. Je l'ai abordé. Il a été très étonné, mais très aimable, très spirituel. Il a dit, moi, je ne veux plus parler de mathématiques, je ne veux plus rencontrer des mathématiciens, mais puisque vous êtes venu jusque-là, parlons.
Et de quoi est-ce que vous avez parlé alors, puisque vous n'avez pas parlé de mathématiques ni de mathématiciens?
Oui, enfin, vous avez lui parlé a parlé, moi j'ai écouté.
Il a parlé d'écologie ou il a
Non
parlé...
plus, il a parlé de du vaste univers, de toutes ses idées, de la structure. C'était un obsédé de la structure de toujours, depuis qu'il faisait des maths. Il ne pouvait pas regarder le monde et l'univers sans structure et il ne pouvait pas s'empêcher de se plonger à l'infini dans la question du mal et pourquoi le mal existait et quel est le rôle du mal dans l'univers et est-ce qu'il y a une structure qui peut expliquer vraiment l'existence du mal. Et en fait, il m'a dit, sans exactement le dire, mais il m'a vraiment fait comprendre qu'il avait quitté le monde de la société. Il s'était retiré parce que le mal était partout et qu'il le supportait juste plus du tout. Et il a expliqué... Non, il n'a pas expliqué. Il faut dire qu'on s'est rencontrés plus d'une fois et on a eu un très long échange de lettres. Donc, ce que je dis là, ça vient d'une longue correspondance, pas du premier jour. Mais il s'appelait un mutant. Il disait qu'il y avait eu très peu de mutants dans l'histoire des gens. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter ce que tout le monde accepte facilement. Mais il ne s'en targuait pas. Hein. Il dit juste qu'il y a des gens comme ça. On ne peut pas voir ce qui se passe et l'ignorer et vivre nos vies. On ne peut pas. Ça fait trop mal. On ne peut pas. Et il a cité par exemple Freud qui ne pouvait pas accepter le fait que les gens avaient des maladies mentales ou étaient bizarres, avaient des hystéries, avaient des douleurs. Ils voulaient comprendre, chercher, creuser, comprendre le pourquoi. Ils ne pouvaient pas juste observer ça et vivre ça comme tout le monde en s'occupant de sa vie. Et donc voilà, ce premier jour, il a abordé ces sujets-là et qu'on a énormément développé par la suite.
Leila Schneps, je pense qu'il va falloir que vous reveniez une autre fois dans ce podcast pour nous parler, pour continuer de nous parler d'Alexandre Grothendieck et puis aussi d'autres sujets. On n'a pas pu parler des romans que vous écrivez parce que vous l'avez dit, hein, vous avez toujours aimé la littérature et vous avez écrit plusieurs romans policiers que l'on peut lire et qui sont écrits sous le nom de Catherine Shaw. Pourquoi ce pseudonyme, juste en quelques mots pour terminer?
Oui, c'est mon éditeur qui a proposé toute une liste de noms qui étaient les plus bizarres et pas du tout moi, les uns que les autres. Ils voulaient que j'aie un nom écossais, je ne sais pas, Heather McGrath, je ne sais pas. Il y avait une liste. Et finalement, j'ai choisi ça parce que ça me rappelait le personnage principal du roman Les Hauts de Hurlevent, qui s'appelle Catherine Earnshaw. Et donc, ça me rappelait ça un peu. Et c'est un personnage d'un roman que j'ai adoré quand j'étais jeune. C'était une autre chose qui a bouleversé ma vie, je peux dire vraiment, je m'identifie à ce personnage. Donc dans la liste des noms, j'ai sélectionné celui-là.
Il faudra que vous reveniez pour nous parler des romans que vous écrivez, Leila Schneps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de L'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique Médiation Scientifique et Marion Liévig, responsable de la programmation. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir, à bientôt.